Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Dans Chrétien d'Orient, cette fête du 15 août, c'est en compagnie de Mgr Charbel Malouf, archimandrite de l'église Melkite en France, prêtre de l'église de Saint-Julien-le-Pauvre, de rite Melkite. Alors vous allez nous réexpliquer encore une fois ce dont il s'agit, que nous allons poursuivre l'explication des grandes fêtes religieuses. Nous avons déjà commencé l'année liturgique ensemble et nous la continuons voilà en cette fête de l'Assomption de la Vierge que nous commémorons aujourd'hui. Mgr Charbel, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Alors vous devenez un habitué de notre émission, j'en suis très très heureux et vous allez revenir hein, je pense à la rentrée parce que j'ai vu un très beau livre circuler sur l'histoire et la restauration de votre iconostase à Saint-Julien-le-Pauvre.
Tout à fait, nous avons publié dernièrement un ouvrage sur l'iconostase en général, l'histoire, la spiritualité, mais aussi tout particulièrement sur l'iconostase de Saint-Julien-le-Pauvre, le sens, l'histoire, la restauration en 2012.
Voilà, qui était un grand projet de remise, de sauvegarde finalement, parce qu'il y avait des parties qui étaient très endommagées. Voilà, mais je ne déflore pas le projet, vous reviendrez nous présenter cette thématique plus en profondeur. Quelques mots, vous êtes à Saint-Julien-le-Pauvre, donc cette église qui est au centre du Paris, peut-être même l'une des plus anciennes églises de Paris, et le rite Melkite, donc votre église.
Tout à fait. Depuis la fin du 19e siècle, la communauté Melkite célèbre toute la tradition orientale Melkite, selon le rite byzantin, dans cette église de Saint-Julien-le-Pauvre, qui a été bien sûr rénovée à plusieurs reprises pour qu'elle soit conforme à notre tradition liturgique.
Alors c'est une petite chapelle, hein. Je crois que l'important du bâtiment a été détruit par un raid des Vikings.
Tout à fait, mais c'est une église qui paraît être petite, mais qui peut contenir 350 chaises.
Et surtout grande par la foi.
Et c'est surtout ça.
Voilà, l'Assomption de la Vierge aujourd'hui, peut-être l'un des jours les plus importants, disons, parce qu'il consacre cette grande dame que nous respectons particulièrement. Et il y a un culte marial particulièrement important. Alors nous allons essayer de voir un petit peu la différence ou ce qui nous rejoint, ce qui nous rapproche entre la tradition catholique latine et une tradition peut-être plus orientale avec ce qu'on appelle la dormition. Pourquoi ce jour est important ?
Ce jour est important parce que c'est une des plus grandes fêtes mariales qui remonte au 6e, 7e siècle et qui a une origine tout à fait orientale, spécialement en Jérusalem. C'est une fête mariale parmi les grandes fêtes mariales, mais aussi c'est une fête mariale, on parlait tout à l'heure de ce cycle liturgique, des grandes fêtes liturgiques. C'est la fête qui clôt le calendrier liturgique byzantin. Et donc, d'une part, c'est une grande fête liturgique, d'autre part, c'est une des grandes fêtes mariales, parce que le sens et la spiritualité de cette fête ont marqué l'histoire de l'Église en Orient. Et c'est pour cela que le mois d'août est appelé, dans notre tradition orientale byzantine, le mois marial. Et donc nous célébrons le 15 août la Dormition. Là, il y a bien sûr une différence selon les traditions, traditions latines ou traditions orientales. Nous avons deux termes qui disent, à mon avis, la même chose, même si bien sûr il y a des différences étymologiques. La dormition, kimisis en grec, qui veut dire le repos, c'est comme si la Vierge Marie était en repos. mais aussi ce terme oriental porte le même sens que l'Assomption. C'est vrai que c'est un repos, mais aussi la montée du corps de la Vierge au ciel. Alors, ce que le terme latin Assomption veut dire justement cette montée du corps de la Vierge Marie au ciel.
Alors revenons un petit peu en arrière, Monseigneur Charbel. Que savons-nous par les évangiles de la vie de Marie ?
Nous savons peu de choses sur la vie de Marie. Dans les évangiles que nous avons, ce qu'on appelle les évangiles canoniques. Par contre, nous avons beaucoup de témoignages, que ce soit des apocryphes, que ce soit des témoins, des témoignages des pères et des historiens de l'Église. Mais surtout, la fête mariale de la Dormition a été inspirée par ce que nous appelons les textes apocryphes, qui ne sont pas canoniques, qui ne sont pas reconnus par l'Église comme des textes révélés, mais qui ont quand même inspiré beaucoup de fêtes, y compris et surtout la fête de la Dormition, et qui ont inspiré aussi des thèmes iconographiques.
Et il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs légendes liées à ces dernières années de la vie de la Vierge après la mort de son fils.
Tout à fait. Alors justement, dans ces apocryphes, je parle surtout de cette fête mariale du 15 août de la Dormition, c'est que les apôtres étaient dispersés dans toute la terre et par une inspiration de l'esprit, ils convergent tous vers Gethsémani, la maison de la Vierge, pour justement dire leurs adieux à la Vierge Marie. Et cela, on le voit, bien sûr, il y a des détails différents selon les apocryphes, selon les textes, mais quand même, ces apôtres viennent de partout pour prier avec la Vierge pendant ces dernières heures, avant le départ, comme on dit, avant la Dormition de la Vierge Marie.
Et cette tradition qui est liée à Jean, alors on ne sait pas si c'est l'évangéliste, l'apôtre, celui de Patmos, je pense à celui qui a été enterré du côté d'Éphèse,
tout à fait,
et qui a été l'objet d'un culte très important à l'époque justinienne, la première époque byzantine, et cette maison de la Vierge Marie sur les hauteurs d'Izmir, d'Éphèse. Qu'en pensez ?
Alors c'est une des traditions qui a été justement attribuée à Saint Jean, mais ce n'est pas la seule, parce que justement, comme je disais, il y a aussi les apocryphes, mais aussi à partir du 6e-7e siècle, dès que cette fête a commencé à être répandue, surtout dans tout l'Empire, par l'empereur Maurice, il y a eu beaucoup d'orateurs, beaucoup de pères de l'Église. Je peux citer Saint Maxime le Confesseur, qui est un grand penseur théologien de l'Église, qui honore cette fête et qui parle de cette fête mariale, et surtout de Saint Jean Damascène, qui est un des grands aussi pères de l'Église, qui a marqué l'histoire de l'Église dans l'iconoclasme et la guerre contre les icônes, mais aussi qui a laissé toute une des hymnes à la Vierge, surtout pour cette fête. Et donc, tous ces pères ont contribué à cette richesse liturgique mariale, et surtout qu'à partir de cette date, on commence à avoir une prière, d'ailleurs dans la tradition byzantine, spéciale pour la Vierge Marie, à partir du 1er août, c'est ce qu'on appelle la paraclisis, une supplication qui veut dire aussi consolation, qui prend une heure à peu près de chant, et tous ces hymnes, presque la plupart, ont été composés, écrits par Jean Damascène. Et donc Jean Damascène est aussi un des grands pères de l'Église qui va contribuer à la liturgie de cette fête mariale.
Alors nous allons revenir sur des aspects plus théologiques, mais selon vous, pourquoi il y avait eu ce besoin de s'intéresser à la mère de Jésus, de la faire entrer finalement dans cette grande histoire, alors qu'elle apparaît très très peu dans les évangiles ?
Alors c'est vrai qu'elle apparaît très peu dans les évangiles, mais quand elle apparaît, on voit quand même qu'il y a un rôle à la Vierge Marie. Rappelons-nous par exemple ce qu'on appelle dans l'évangile selon saint Jean le miracle de Cana. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus répond à sa mère d'une façon un peu qui peut nous choquer peut-être, mais après Jésus, il change l'eau en vin. Cela veut dire que dès le début, Marie était présente dans toute la vie de Jésus, dans tous les miracles presque de Jésus, et donc elle jouait un rôle d'intercession, elle jouait un rôle aussi dans cette première communauté chrétienne autour de son fils Jésus-Christ. Et l'Église voit aussi dans la Vierge Marie la figure de la Mère de Dieu. Cette question, bien sûr, qui va être débattue plus tard dans le christianisme, mais la Mère de Jésus, la Mère de Dieu, la Théotokos, est un dogme marial qui a été quand même un des dogmes les plus importants dans l'histoire de l'Église, et notamment dans l'Église orientale, dans toutes les Églises orientales. Cela veut dire que la Vierge Marie, dès le début, et on le voit dans beaucoup d'écrits des pères de l'Église dès le 1er et 2e siècle, a joué un rôle très important dans cette histoire du salut, dans cette économie du salut. Évidemment, c'est pas elle qui a sauvé l'humanité, c'est son fils. Et la Vierge Marie, comme on le dit, et comme beaucoup de théologiens, que ce soit de l'Antiquité ou de l'âge contemporain, on le répète, elle a contribué au salut. Mais elle a donné le salut, Saint Jean Damascène nous dit, et puis même dans notre tradition, tout l'hymne de l'Acatiste chante les vertus de la Vierge, donc dès les premiers siècles du christianisme. Mais ce culte marial reste un culte marial, et ce que j'aime toujours dans ce culte marial, ce que je répète pour mes paroissiens, c'est que la Vierge Marie, qui est la Mère de Dieu, la Mère de Jésus, qui est notre Mère à nous, un rôle très important à jouer dans cette intercession auprès de son fils. Mais elle reste un être humain. Et là, le culte, que soit orthodoxe ou catholique, attire notre attention à cet élément. La Vierge Marie, elle a été choisie dès le début pour être la Mère de Dieu, comme on le voit dans l'Évangile, encore une fois. « Que charitomène, vous êtes choisis, élus hein. » Par Jésus, par Dieu. C'est pas elle qui est magnifique tout de par sa nature, mais elle a été rendue belle et magnifique à partir d'un choix de Dieu, et ce choix reste éternellement. C'est-à-dire que la Vierge Marie reste vierge, reste mère de Dieu, reste mère de chacun parmi nous pour l'éternité. D'où le rôle justement important de la Vierge Marie dès le début du christianisme et presque dans toutes les églises, que ce soit en Orient ou en Occident.
Alors cette figure importante, une figure féminine très forte, vous êtes libanais, donc vous savez très bien quand on quitte un peu Beyrouth sur les hauteurs, on arrive dans la baie de Jounieh, on voit Notre-Dame de Harissa qui est cette immense statue de la Vierge. Et ce qui frappe, c'est que les musulmans viennent, et surtout les femmes, viennent prier la Vierge Marie. Donc vous mentionniez l'église latine, l'église d'Occident, l'église d'Orient, mais n'est-ce pas aussi un moyen de, comment dirais-je, ou une espèce de passerelle, alors là c'est un terme contemporain bien entendu, mais une figure qui rassemble au-delà?
Je dirais exactement, c'est une figure très importante sur deux points que vous avez mentionnés dans votre question. D'abord, c'est une figure féminine, on le voit. Le christianisme donne un regard assez ouvert dès le début pour la femme. C'est Marie, mère de Dieu, et tout ce rôle dans toute cette histoire, dans toute cette écriture, cette tradition manuscrite ou autre, dans les hymnes, dans les chants, dans les prières. On voit aussi les femmes mirophores, après la résurrection de Jésus. Comment elles jouent aussi un rôle très important dans l'évangélisation, dans l'annonce de la résurrection, de la bonne nouvelle. Et donc on voit dès le début que autour de Jésus, il n'y a pas uniquement des apôtres, il y a bien sûr des apôtres, mais aussi il y a des femmes, plusieurs femmes, y compris évidemment la Vierge Marie. Donc dans le christianisme, on voit très bien que dès le début, il y a une importance accordée au rôle de la femme dans la foi et dans la vie. Et c'est pour cela que le christianisme, me semble-t-il, par rapport à d'autres religions et d'autres philosophies, a libéré la femme, a donné une importance à la femme, presque une importance, je dirais, divine, même si, encore une fois, je le répète, la Vierge Marie n'est pas Dieu, et n'a pas un statut divin, mais qui a été choisi, qui a été divinisé par son fils. Et c'est ce qu'on voit aussi dans l'iconographie et dans les hymnes de la fête mariale du 15 août. C'est le premier point. Le deuxième point, justement, c'est une passerelle. C'est la Vierge Marie, dans le Coran, est très vénérée. C'est la mère de Jésus, de Aïssa, comme on dit dans le monde musulman. Et elle est parmi les femmes les plus vénérées du Coran. C'est pour cela que au Liban et dans d'autres lieux aussi, la Vierge Marie a un statut assez particulier pour les musulmans qui viennent de toutes parts vénérer cette femme, mère de Jésus, parce que aussi, il faut le rappeler, Jésus est pour eux un des grands prophètes. D'où aussi la Vierge Marie peut jouer dans le monde musulman un rôle très important dans la vénération que les musulmans rendent aux femmes en général, mais surtout à la Vierge Marie qui est la mère de Jésus. Thank you.
Alors pour revenir à la symbolique théologique de ce jour, de cette fête, on associe souvent l'assomption de Marie avec l'ascension du Christ. De fait, les mots se ressemblent, assomption, ascension, bon, sont des origines latines légèrement différentes, mais il y a quand même dans les deux cas cette idée d'une montée mystérieuse au ciel, donc une forme de résurrection d'une certaine manière. S'agit-il d'une fête de l'espérance, avant tout ?
C'est exactement, à mon avis, le message du christianisme par excellence. Aujourd'hui, le 15 août, toute l'humanité est sauvée. Toute l'humanité est rachetée. C'est, à mon avis, un complément, je dirais, qui nous rappelle la fête des fêtes, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de liens entre ces deux fêtes. Non seulement des liens étymologiques, mais surtout des liens sur le plan théologique et spirituel. D'abord, sur le plan étymologique, les termes, c'est vrai qu'ils se ressemblent, assomption en langue latine,
en latin,
mais les orientaux préfèrent toujours la dormition. Pourquoi ? Parce que, justement, dans l'assomption, surtout les orthodoxes, ils ont peur que on donne l'impression que c'est la Vierge Marie qui monte toute seule au ciel. Et c'est là la grande différence entre ascension du Seigneur, c'est Jésus qui monte au ciel, c'est un Dieu. L'assomption, c'est pas Marie qui monte au ciel, c'est le Christ qui vient chercher la Vierge Marie pour monter la Vierge au ciel. Et là, la grande différence entre ces deux fêtes, et je dirais ce parallélisme entre la résurrection et l'adormition. La résurrection, c'est le Christ lui-même qui monte au ciel, alors que ici, c'est pas la Vierge Marie, c'est le Jésus Christ qui vient élever la Vierge au ciel. C'est pour cela, dans la tradition byzantine et surtout iconographique, même s'il y a des différences entre les traditions iconographiques, mais il y a quand même une constante fondamentale qu'on voit dans toutes les icônes, c'est que le centre de l'icône de la dormition, de la fête d'aujourd'hui, c'est le Christ et ce n'est pas la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ qui vient, il est au centre de l'icône, qui porte la Vierge Marie entre les mains, la Vierge Marie comme un petit enfant emmailloté en blanc, et bien sûr il y a le corps de la Vierge sur le lit, mais le centre c'est la Vierge, c'est le Christ qui porte dans ses mains la Vierge Marie, l'âme de la Vierge Marie. Ça veut dire que justement la dormition, elle dort en paix, mais en même temps, c'est Jésus-Christ qui vient élever l'âme de la Vierge vers le ciel. Et là, je pense, la grande différence entre ces deux termes, mais aussi entre les traditions. La dormition veut dire à la fois, elle repose en paix, mais elle connaît la mort, mais elle ne va pas connaître la décomposition du corps.
Parce qu'elle monte corps et âme au
corps
ciel.
Corps et âme au ciel. C'est ça, en fait, la fête de la dormition. Elle monte pas uniquement par son âme, mais par son corps. Et là, cela me permet d'ouvrir sur un point fondamental de la foi chrétienne, non seulement par rapport à cette fête, mais surtout à la foi chrétienne. Tout à l'heure, je parlais de la grande ouverture du christianisme pour la femme, mais il y a un autre point, et qui est très important dans cette fête, c'est que le corps de la Vierge Marie ne connaît pas la corruption. Pourquoi ? Parce que pour nous, et c'est ça en fait l'hymne de Saint Jean Damascène, comment le corps qui a donné la vie va connaître la mort et la décomposition ? C'est impossible. D'où le lien entre, encore une fois, le Christ et la Vierge. Ce corps qui a enfanté la source de la vie, il ne peut pas connaître la mort. Et donc, justement, la source de la vie, qui est pour nous le Christ, vient chercher sa mère pour l'élever au ciel, corps et âme. Et donc, une des grandes dimensions de cette fête, c'est le corps qui est, à mon avis, au centre de la foi chrétienne. Toutes les religions et toutes les philosophies avant le christianisme n'avaient pas cette importance accordée au corps. C'est le christianisme qui donne la place la plus importante au corps humain. du fait de l'incarnation de Dieu lui-même. Un Dieu qui devient homme, qui devient chair, pour le salut de la chair et de tout être humain. Et effectivement, à partir de là, tout change, tout se transforme. Et le corps humain devient quelque chose de très important dans le christianisme, dans cette démarche spirituelle, dans cette démarche théologique. Et c'est pour cela, dès Irénée de Lyon, qui n'est pas loin d'ici, on parle de la résurrection du corps, et non pas de la résurrection tout court. C'est le corps qui ressuscite. Et toute la fête de la résurrection, Jésus-Christ lui-même est ressuscité avec un corps qu'on appelle, selon saint Paul et dans toute la tradition chrétienne ultérieure, un corps glorieux, spirituel.
Un corps de lumière.
De lumière. C'est pour ça aussi, dans certaines icônes, c'est rare, mais on le voit quand même, on voit la Vierge Marie sur son lit de départ, en blanc, pour rappeler que ce corps est un corps glorieux, spirituel, qui ressuscite avec le Christ. Et donc, c'est vraiment très important. Le corps fait partie du salut. Le corps fait partie de ce don de Dieu. Le corps fait partie de cette démarche de foi. On peut pas ne pas intéresser, impliquer le corps dans toute cette démarche, dans la foi. Et la fête d'aujourd'hui nous rappelle le corps de la Vierge qui a donné la vie au Sauveur du monde. Le Sauveur du monde, aujourd'hui, vient donner la vie à ce corps pour ne pas connaître la mort et la corruption.
Alors nous parlons d'espérance tout à l'heure, l'espérance des hommes, l'espérance de l'humanité. N'est-ce pas finalement la préfiguration dans cette dormition de la Vierge, où elle monte corps et âme au ciel, la préfiguration de ce qui peut tous nous attendre?
Exactement. Aujourd'hui, nous fêtons, et d'ailleurs on le chante dans certains hymnes, l'espérance de la vie. La mère de la vie ne peut pas connaître la mort, mais elle passe à la vie. Dans le Trop-Père, on le chante. On chante la virginité de la Vierge, mais aussi on chante vie qui est justement, qui accompagne toujours cette mère de Dieu. Et donc, pour revenir à l'espérance, le message du christianisme est un message d'espérance par excellence. D'ailleurs, dès le troisième jour de Pâques, le dimanche, l'annonce de l'ange à ses femmes mis au fort, il n'est plus là, il est ressuscité, nous sommes pleinement dans l'espérance. Et le christianisme, s'il a un mot à dire au monde, c'est justement cette joie de l'espérance. Et la fête d'aujourd'hui nous plonge, encore une fois, dans l'espérance, dans la Vierge Marie, toute l'humanité est sauvée, toute l'humanité est élevée au ciel. Et dans la Vierge Marie, nous sommes dans l'espérance totale, car nous sommes divinisés par son Fils et ressuscités avec elle par son Fils. Charbel, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Sébastien, merci pour toute l'équipe et je vous souhaite une belle fête de la Dormition, une belle espérance encore une fois avec la Vierge Marie, notre mère.
Je rappelle que vous offrez un service tous les dimanches à 11h à Saint-Julien, le pauvre. Je remercie Dany Journaud, Anne-Catherine Lochat et Jean-Michel Bernot pour la réalisation de notre émission. Bonne journée à tous.